Bienvenue à tous. Black and Blue est une émission mise en forme par Françoise Cordet et mise en onde aujourd'hui par Jean-François Néolier et Jean-Benoît Tétu. Georges Pakzinski propose le troisième chapitre de son histoire de la batterie lue en diagonale, abordée en fait par les chemins de traverse. Hier, celui du roulement de caisse claire. Aujourd'hui, eh bien, il va nous le dire très bientôt.
Alors, vous savez, nous avons parlé de beaucoup de choses la dernière fois. Nous avions parlé des roulements d'Art Blakey, des roulements d'Alvin Jones, de Baby Dodds avant, et puis Liza de Chick Webb. Et en fait, progressivement, nous avançons dans l'histoire de la technique de la caisse claire. Et malheureusement, nous rentrons dans un monde de la compétition absolument extraordinaire. Extraordinaire n'est pas le bon mot. Disons à un moment où on appellera ça, ou les Jeux Olympiques, ou je ne sais pas, les vitesses, quoi, l'omniprésence de la vitesse. Alors, on avait commencé par Baby Dodds, puis Jane Krupa, la première star de la batterie, a commencé à donner l'impression d'un très grand pouvoir. Et au moment même où il sort de la batterie de son anonymat, en quelque sorte, la star vient prendre le dessus. Et tout à coup, on peut dire que la batterie bascule vers un système qui va l'emmener vers une rapidité d'exécution tout à fait vertigineuse. Alors évidemment, il y aura Buddy Rich, il y aura Louis Bell, puis avec Kenny Clarke, Max Roach, Art Blakey, Elvin Jones, Tony Williams, Jack DeJohnette. Puis dans un autre univers, Dave Wakel, Steve Smith, Denny Chambers. La vitesse où finalement on peut se poser qu'une seule question. Moi je suis souvent admiratif quand je vois les gens jouer très vite. Je me dis bon, moi j'arrive pas à jouer si vite que ça. Mais la deuxième question qui me vient immédiatement à l'esprit, c'est dans quelle mesure les coups que vous jouez sont vraiment tous habités. C'est-à-dire, est-ce que ces coups sont donnés avec un sentiment? C'est-à-dire, est-ce qu'ils sont donnés pour évoquer, pour émouvoir, et non pas pour surprendre? Est-ce que ces coups sont donnés pour toucher votre cœur, ou est-ce que c'est pour vous montrer, regarde comme je joue vite et comme je joue bien? Oui, vous voyez, et c'est ça. Et j'ai été fasciné par ce problème. Alors, il y a quand même des méthodes, et il faut quand même bien dire des méthodes qui sont célébrissimes, des méthodes de caisse claire. Il y a eu d'abord Stick Control for Snare Drums et George B. Stone, 1935. Il y a The Mohler Book, 1938, où on travaille le travail des avant-bras, des accents, le coup de fouet, et puis le travail des bras en même temps. Il y a le Wrist and Finger Control for Advanced Drummer, 1951, de Charlie Wilcoxon, où il y a un travail conjugué de poignets et de doigts. Il y a un livre passionnant de Roy Burns et de Lewis Mallin qui s'appelait Practical Method of Developing Finger Control, 1958, très intéressant aussi. Et puis, à la plus célèbre, c'est Jim Chapin, Advanced Technique for the Modern Drummer, où en 1998, tenez-vous bien là, on en était à la 50e édition. C'est-à-dire qu'en fait, et puis cet homme a fait une vidéo assez surprenante, n'est-ce pas, sur un silencieux, où il montre comment il joue sur un silencieux, quoi. Alors ça fait tout drôle, vous voyez.
Mais il joue selon la méthode Mohler, justement.
Ah hein. Oui, alors. Mais il joue sur un silencieux, quoi. C'est-à-dire qu'en fait, on n'entend pas de son, on n'entend pas le son de l'instrument. Vous comprenez? Alors là, il y a une sorte de folie.
Je me souviens surtout pour l'avoir vu, qu'il joue toujours la même figure. Je ne sais plus ce que c'est. Il me semble que c'est un moulin ou quelque chose comme ça.
Oui. Et il est triste en même temps, j'ai l'impression. C'est-à-dire qu'il joue et il y a quelqu'un à côté de lui aussi qui est triste. Alors, vous voyez, c'est une sorte de... Vous voyez, c'est une image absolument surréaliste, vous comprenez? C'est-à-dire que vous n'avez, non seulement vous n'avez pas de son, mais il y a une exécution extrêmement rapide de choses, de baguettes. Et finalement, vous dites comme, on s'en fout, vous comprenez? C'est terrible de dire ça. Nous sommes à France Culture, j'ai honte de le dire. Mais enfin, on s'en fout, vous comprenez? Alors, ce que je voulais amener à vous dire... Oui, c'est qu'en fait, il y a une mélodie des doigtés. Ça devient beaucoup plus intéressant. Si je fais droit, droite, gauche, ça ne sonne pas pareil que... On me dirait que vous entendez peut-être la même chose, mais droit, droite, gauche n'est pas la même chose que gauche, gauche, droite. Si je fais des rats de 5, d'une main... De l'autre côté, droite, droite, gauche, gauche, droite, gauche, gauche, droite, droite, gauche. y a une mélodie là qui se dégage. Et là, c'est intéressant, parce que quand il y a des mélodies du genre... Il y a des mélodies qu'on arrive à faire avec des doigtés. Mais alors là, ce qui devient intéressant, c'est que toute la technique de la batterie que nous avons vue jusqu'à présent adaptée aux marches, eh bien, et le buzzle notamment, le chimie de Baby Dots dont Philly Joe Jones était tellement admiratif, eh bien, on va le trouver confronté, je vais presque dire, collé à des mélodies. C'est-à-dire, contrairement, c'est donc plus quelque chose d'abstrait. C'est-à-dire qu'au lieu d'avoir, quand on avait joué dans l'émission précédente, j'avais joué les marches tambours, etc. Bon, c'est intéressant en soi, mais là, on va jouer vraiment des mélodies. Et j'en ai pour preuve, par exemple, un disque célèbre de Zutty Singleton avec Lyle Harding et Sidney Bechet. On est le 7 octobre 52 et on entend Limehouse Blues. Et Limehouse Blues, c'est et il y a le solo de Zutty qui fait ça. Autrement dit, là, je joue le puzzle, le roulement d'encre gratté, sale, entre guillemets, qu'on ne peut pas identifier avec au papa-maman, n'est-ce pas ?
Déterminé de coup de chaque main. Voilà, c'est comme ça que ça se définit.
Voilà, je cherchais mes mots. Et donc là, on entend tout à coup vraiment Limehouse Blues. Alors là, il y a quelque chose qui bascule complètement. Le batteur est un bruiteur à l'origine. Mm-hmm. Il faisait des bruits dans les cinémas, pantalons déchirés, tout ça. Enfin, voilà, des woodblocks, des machins. Et là, tout à coup, il joue des mélodies. Oh, c'est quand même incroyable. Alors, en ce moment-là, le batteur, on l'écoute d'une autre manière. Il n'est pas là pour faire que du rythme. Et avec la caisse claire uniquement, eh bien, on entend un développement mélodique, ce qui en soi est considérable, parce que ce principe-là, développé avec Baby Doss déjà, mais Zutty en donne un exemple, comme nous allons l'entendre, eh bien, ce principe-là ira de Zutty Singleton à Jack DeJohnette, Peter Erskine. C'est ça qui est extraordinaire.
Dans cette lignée, il y a eu un personnage très important et dont très certainement on ne parle pas assez, c'est Vic Burton, sur lequel vous insistez dans votre propre ouvrage. Et effectivement, parce que je ne sais pas pourquoi, c'est quelqu'un qui n'a jamais été très connu de ce côté-ci de l'Atlantique. Alors que Louis Armstrong, par exemple, le considérait quand même comme le plus grand batteur de son temps. C'est pas rien.
C'est vrai, il jouait même des timbales.
Oui,
c'était extraordinaire. Et timbales accordées, donc fa, si bémol, enfin accordées. Et à ce moment-là, il jouait vraiment des mélodies, quoi. C'est formidable. Mmh. Nous aurons l'occasion d'en parler à propos des tomes. D'accord. Jouer les mélodies où Max joue des mélodies, Max Roach joue des mélodies. On aura l'occasion de développer. Mais alors, je vous propose d'écouter donc Zutty Singleton. Donc, nous sommes le 7 octobre 1952 à Paris. Voilà, avec Bechet et Lyle Armstrong. Thank you.
Voilà une pièce de référence qui aura accompagné Black and Blue pendant une grande partie de son existence.
Ah, hein, oui.
Parce que ce n'est pas la première fois que nous avons l'occasion de la diffuser.
Absolument, oui.
Et donc, c'est un Limehouse Blues de 1952. Zutty Singleton et Lil Armstrong, enfin Lil Hardin,
voilà,
se trouvaient à Paris et ils ont eu l'occasion d'enregistrer en trio avec Sidney Bechet.
Oui, voilà une pièce tout à fait parlante, n'est-ce pas? Vous voyez comme on passe d'un buzzle qui est un roulement du le tambour militaire, enfin tout ça, avec un buzzle qui a une signification toute différente, n'est-ce pas? Et on suit, et ce qui est très...
C'est entre le buzzle et le roulement ouvert. Hein,
voilà,
parce que c'est pas le buzzle que Philly Joe Jones appelait papier de soie.
Oui,
c'est tout à fait différent.
En effet, mais ce qui est magnifique dedans, c'est le son qu'il a.
Oui,
quoi.
Oui, oui.
C'est un son d'une chaleur, d'une aisance. Voyez, il est, et c'est léger. La manière dont il joue la caisse, c'est légère. Par exemple, Ray Bauduc aussi, un autre batteur, Nouvelle-Orléans, très sous-estimé, très, même oublié. Manière de jouer la caisse très légère, voyez, sans agressivité. On domine la question. Alors maintenant, je vous propose l'extension de ce problème de ce Limehouse Blues vers un thème qui s'appelle Now is the Time, qui est un grand classique. C'est un blues en fa de Parker. Si j'avais un piano, je jouerais les accords. C'est très simple. Le blues en fa, si bémol, fa,
plusieurs
fa,
morceaux,
voilà,
qui lui ressemblent comme deux gouttes d'eau.
Oui.
Qui portent d'autres titres, par exemple de Colbuck qui a enregistré,
oui,
Buck Clayton et d'autres. Voilà. Et
oui.
Je pense qu'on trouverait d'autres exemples encore que ceux-là.
Ou certainement. Alors, ce thème sonne de la manière suivante. Il fait... Alors, 12 mesures, très classiques. Alors, moi, je vais les jouer d'une manière très, très classique. Je vais dire presque pompier. J'ai raté un petit peu le dernier coup, mais oui, hop, c'est très militaire, c'est très... Et en même temps, les quatre membres commencent à être un petit peu libres. Alors maintenant, Alain, Kenny Clarke se trouve dans une situation un peu bizarre.
Pardonnez-moi, mais je vais en profiter, je vous interromps,
oui,
vraiment,
oui,
mais je vais en profiter pour dire quelque chose à ceux de nos auditeurs qui ne seraient pas au courant de la chose. Pendant assez longtemps, finalement, dans l'histoire de la batterie, je pense que vous n'allez pas me contredire, les chorus n'étaient pas vraiment des chorus. C'est-à-dire qu'ils n'étaient pas calqués sur les chorus des autres instruments qui, eux, étaient censés faire le même nombre de mesures, ou un,
oui,
multiple, que la mélodie originale.
Oui.
Le batteur, bah, ma foi, il jouait.
Oui.
Hein, il jouait. Alors, si ça faisait... 36 mesures moins le quart,
oui,
bah, c'était 36 mesures moins le quart, et puis l'important c'est que les autres se débrouillent pour repartir au bon endroit. Et puis, quelqu'un a imaginé un moment, alors le nom de Zutty Singleton est assez fréquemment cité à ce propos,
oui,
hein, mais sans doute vous savez comme c'est, hein, vous êtes historien, donc vous savez que dès qu'on annonce une vérité de ce type, il y a quelqu'un d'autre qui vous ressort d'un tiroir, vous dites, bah non, en fait c'est machin, enfin bref. Toujours est-il que quelqu'un s'est dit, mais après tout, pourquoi la batterie ne jouerait pas 32 mesures quand les autres 32 mesures, ou
voilà,
16 ou 8 ou, bon.
Ouais, oui.
Et ça a posé un problème aux batteurs qui simplement n'en avaient pas pris l'habitude. Et donc, ont-ils fait pour céder, bah, très exactement ce que vous venez de faire. C'est-à-dire qu'ils se chantaient, évidemment, ils ne le faisaient pas à voix haute, oui. Mais ils se chantaient dans leur tête la mélodie pour être sûrs de cadrer leurs interventions. Et Kenny Clarke a dit plus d'une fois, « Moi, pour être sûr de ne pas rater mon nombre de mesures, quoi qu'il arrive, je me chante sous-dessous.
» Mais alors, il faut quand même préciser pour nos auditeurs qu'il y a un autre aspect, c'est que Kenny était un formidable pianiste. Il jouait le piano, il adorait ça. Et en fait, non seulement il chantait la mélodie comme je viens de le faire en improvisant dessus, mais il entendait les accords. Donc ce qui est aussi intéressant, c'est non seulement de jouer autour de la mélodie, mais c'est d'entendre tous les accords les uns après les autres, vous voyez, dans la tête, quoi. Et ou en même temps, travailler uniquement sur les accords. Nous verrons ça à l'occasion d'une autre émission. Donc ça, c'est intéressant, vous voyez. Vous vouliez dire quelque chose?
Non, je vous remarquerai que je vous ai interrompu comme un goujat, mais en même temps, j'ai fait la soudure entre oui. The Singleton dont vous parliez et Kenny Clarke, dont vous vous apprêtiez à parler.
Bravo Alain. Alors, Kenny va nous mettre dans une situation assez infernale. Et je vous propose, voilà, il est d'abord avant de l'écouter, il est dans une séance, il joue, puis d'un coup, il manque un tout petit peu de temps, il n'y a plus de musique à jouer, et le producteur du disque dit, écoute Kenny, tu peux jouer quelque chose, allez, joue-nous quelque chose. Ah ben, il se dit, ben, qu'est-ce que je vais faire? Ben, je vais jouer. Ah ben, zut. Ben oui, bien sûr, je vais jouer. Now is the time.
Il faut signaler déjà qu'il avait horreur de ça.
Hein. Il avait horreur de jouer les solos.
Des batteurs, voilà. Voilà, il n'aimait pas. Alors en plus, un solo absolu, comme on dit aujourd'hui.
Seul, voilà.
Et il n'avait pas eu beaucoup qui avaient été enregistrés à cette époque. Si même il y en avait eu un seul, ouais, ça, oui. J'en sais rien. Faudrait vérifier.
Ça n'est pas sûr. Il n'y en a peut-être pas eu. Et nous sommes le 30 mars 55. Et voilà Kenny Clarke en train de jouer Now is the time. Mais je vais passer les 26 premières secondes. Et vous allez comprendre pourquoi. Alain, vous voyez, là, il y a quand même un problème. C'est-à-dire que le morceau commence, si vous chantez Now is the time, ça ne marche pas. Et pourtant, il y a Now is the time quelque part, vous l'entendez quelque part.
Voilà, oui, sur la fin.
Mais oui, bien entendu. Mais alors, qu'est-ce qui se passe? Comment se fait-il que quand il commence le morceau, il n'y a pas Now is the time? Et surtout, il y a une introduction de deux mesures, avec des triolets sur la Charleston, avec des accents. Tiens, invraisemblable. Donc, en fait, j'ai mis du temps à trouver, c'était tout bête. Hein. En fait, c'est 4 mesures d'introduction. Ouais. Et comme il est tout seul, il n'a pas besoin de téléphoner aux autres. Ouais, je fais 4 mesures d'introduction. Et tu vois, non, ils ont tellement dit 4 mesures d'introduction. Et vous voilà, complètement, comme on dirait à la rue, en train de chanter Now is the time, et ça ne fonctionne pas du tout, vous comprenez? Alors en fait, il y a 4 mesures d'introduction.
Surtout qu'une nouvelle fois, dans ces disques, il était assez rare qu'il se payât 4 mesures d'introduction.
Et, hein. En effet, alors là, je vais chanter, n'est-ce pas, en même temps que le disque, le même passage, je vais laisser passer les 4 mesures d'introduction, et puis je vais chanter, n'est-ce pas, le thème en question, pendant le chorus de Kenny.
Ah ben voilà, ce sera lumineux pour nous.
Alors maintenant, oui, vous avez entendu clairement Now is the time.
Ah, très bien, oui.
Alors maintenant, je vais faire travailler qui? Mais nos auditeurs, bien entendu, Alain, je vais leur demander de chanter la mélodie pendant que le disque passe. Et il se trouve que Kenny va inaugurer le solo intégral musical structuré pendant 6 chorus d'affilée de 12 mesures. Donc il va faire 6 fois les 12 mesures. Et en fait, ce qui est extraordinaire, c'est qu'il préfigure le travail de Max Roach dans Conversation en 58, Drums Unlimited en 65, For Big Seed en 66. C'est-à-dire qu'en fait, il y a une chose, voyez, c'est cette phrase qui m'a en 1968, un texte de pochette où il y a René Thomas et Kenny Clarke avec Eddie Lewis. Et je lis dans le texte de pochette, quant à Kenny, il nous a appris à oublier la batterie au profit de la musique, les figures au profit des lumières et des ombres, le spectacle au profit de la vie. Et c'est vous qui avez écrit ça, Alain. Excusez-moi encore
c'est
de dire.
C'est encore vous. J'ai pu
c'est encore vous qui avez écrit ça en 68. C'est formidable. Ça illustre nos propos. Alors maintenant, que nos auditeurs travaillent. Il n'y a rien à faire. Nous travaillons aux auditeurs de travailler. Et je leur propose de chanter maintenant, après les quatre mesures d'introduction, six chorus de Kenny Clarke en train de jouer Now is the Time. Kenny Clarke, qui joue Now is the Time, une pure merveille, n'est-ce pas Alain ? Une pure merveille. Et ses peaux, vous le remarquiez d'ailleurs vous-même, ses peaux animales, le son qu'il a sur ses peaux animales, et un son d'une chaleur. Aujourd'hui, on arrive à nouveau avec d'autres peaux, avec, on arrive à avoir ça, mais pas complètement quand même, il faut quand même bien le dire. Et je me souviens que...
Bizarrement, la peau permet de mieux sentir le bois de la caisse, hein, parce qu'il s'agit d'une caisse claire en bois.
Là. Oui, et puis la chaleur de la baguette, vous comprenez. La chaleur de la peau, la chaleur de la baguette. Nous étions le 30 mars 1955. Alors, il y a maintenant un autre aspect. Vous savez, la caisse claire aussi, parce que c'est l'élément qui nous travaille depuis nos deux premières émissions et celle-ci, dans la musique classique, il faut quand même bien le dire, a des moments qui sont d'une angoisse terrible, où celui qui joue la percussion classique a la caisse claire devant lui, il est là, il attend, l'orchestre joue, et à un moment, n'est-ce pas, c'est à lui, oui, c'est totalement infernal comme situation. Moi, le batteur, il joue tout le temps, vous comprenez. Et le percussionniste, il faut qu'il soit absolument prêt, oui, au moment, avec le son, dans le tempo. Donc, il faut une maîtrise mentale et physique, bien entendu. Alors, il y a des morceaux qui sont spéciaux, où on met en évidence ce qu'on appelle des traits d'orchestre, où on met en évidence la qualité de celui qui joue la caisse claire. Il y a le Capriccio espagnol de Rimsky-Korsakov, il y a de très célèbres, des traits de caisse claire redoutables de Scheherazade, Rimsky-Korsakov encore, le Nocturne de Debussy, les Noces de Stravinsky aussi, la Dame de Pique de François Suppé, Daphnis et Chloé de Ravel, et puis surtout, évidemment, le boléro, complètement infernal. Vous avez, après le début, un début, vous avez 148 fois deux mesures à trois temps, ça commence tempo di boléro, moderato assai, très, très piano, puis ça monte. Et, mais là, c'est une situation qui est totalement paralysante, et en même temps, il y a des percussionnistes qui jouent ça magnifiquement bien. Alors donc, il y a aussi là un autre aspect de la technique de la caisse claire. Mais il y a un autre endroit où je voudrais voudrais vous emmener. C'est lorsque l'on joue et lorsque l'on joue piano à la Caisse Claire. Quand on joue quelque chose du genre comme ceci, quoi. Jouer encore plus piano, il y a un maître en la matière. Il y a un morceau qui est un chef-d'œuvre, pourrait presque dire inégalé, mais magnifique. Piano, très relax, son magnifique. À côté de lui, une contrebasse non amplifiée et un pianiste qui joue quasiment pas de notes. Et on entend marche-tambour, mais pas marche-tambour. On entend une marche tambour qui accompagne complètement la mélodie, qui joue la mélodie en même temps que ces deux musiciens. Et c'est un morceau que je sais que vous aimez beaucoup, mais qui est extraordinairement impressionnant parce que c'est vraiment une leçon non seulement de maîtrise de caisse claire, de baguette, de la chaleur du bois, du fait de lâcher la baguette dans la main et du relax complet, du travail du rebond et de la frappe. Mais c'est une extraordinaire musicalité. Ça, c'est extrêmement rare d'avoir. Et Jack DeJohnett est un admirateur inconditionnel de ce batteur. Il le cite dès qu'il peut. Et le trio Jarrett estime, qu'il arrive maintenant à peu près, au niveau de ce trio extraordinaire. Je vous vois sourire. Je vois que vous avez déjà compris. Je sais que vous connaissez le morceau.
Depuis fort longtemps. Depuis le début, bien sûr.
Eh bien, je vous propose, bien sûr. Il joue au ballet d'abord, en marche-tambour au ballet.
Il ne faut pas oublier que ce batteur-là est de la Nouvelle-Orléans. C'est très, très important. Il est porteur de toute une tradition.
Alors,
en même temps qu'il est l'individualité qu'il est.
Et là, il est sublime, absolument sublime. Alors, il joue au ballet au début, il marche au ballet, Après, il accompagne, passe aux baillettes. Et après, il joue les baillettes. C'est complètement extraordinaire. Nous sommes...
Il faut dire qu'il joue avec des ballets à moitié fermés. Ce qui est plus facile pour se prêter à ce genre d'exercice.
C'est ça. Nous sommes à l'Alhambra de Chicago, juillet 1961, et c'est le trio Ahmad Jamal avec Israel Crosby et le batteur dont nous parlons, c'est Vernel Fournier, et le morceau s'appelle Star Eyes. Thank you.
Voilà un des plus beaux Star Eyes de toute l'histoire du jazz. Nous sommes au moins deux à le penser, mais enfin, je ne pense pas quand même que nous soyons les seuls. C'était donc le trio historique d'Ahmad Jamal avec Israel Crosby à la contrebasse et Vernel Fournier à la batterie. Vernel qui propose là très certainement une partie de batterie exemplaire à beaucoup d'égards. Oh, bon, alors il y a cette valse jouer au ballet avec une légèreté, une invention, une souplesse, une délicatesse absolument ahurissante. Et nous nous rendions compte en l'écoutant pour la énième fois que finalement, il arrive à éviter de rester cloué au sol simplement en jouant un peu à la pointe
comme un contrebassiste. Vous disiez qu'il jouait en avant du temps, en fait.
Voilà, exactement.
Ce qui est extraordinaire, c'est le phénomène de la syncope. On l'évoquait hors micro. Le jazz est fait sur la syncope, n'est-ce pas ? Il est fait sur le temps, mais il est fait en l'air du temps, n'est-ce pas ? Et en même temps, c'est extraordinaire, il y a l'assise sur le sol. Donc, il y a l'assise, il y a la syncope en l'air. Et cette alternance a quelque chose de miraculeux. Et chez ce batteur, c'est un exemple unique, enfin, unique, magnifique exemple de musicalité, j'allais presque dire de tambour militaire musical. Je ne veux pas dire que le tambour militaire ne soit pas musical, en lui-même il a plein de qualités, mais adapté à la musique d'une manière aussi fine, avec cette finesse, vous voyez, c'est ça qui est finesse, une noblesse, je cherchais mon mot. Une extraordinaire noblesse du son.
Il arrive à ne pas paraître lourd dans les moments où Ahmad Jamal s'envole.
Voilà. Il y a une solennité, il y a une noblesse, il y a une tenue, il y a une prestance et il y a une tenue à l'instrument. Il faut voir comment Vernel jouait à la batterie. Il faut voir, il ne fait rien, quoi, il ne bouge pas. Il est là, il a une tenue extraordinaire. C'est une leçon de musique et j'allais dire évidemment une leçon de vie. Quoi.
Alors, il y a cette partie de cymbale extraordinaire au moment des chorus.
Ça commence sur la ride.
Oui, comme vous le savez, parce que vous avez fréquenté, comme moi, cette vidéo, mais Peter Erskine explique qu'il faut arriver à jouer à la batterie comme jouent les contrebassistes.
En effet.
C'est-à-dire à obtenir une note, finalement, qui a une histoire. Oui, une note qui dessine une courbe dans l'espace.
Voilà.
Et là, c'est exactement cette impression qu'on a en écoutant ce rythme très simple que Vernel Fournier joue à la main droite.
Et en fait, il y a une rondeur du son, vous voyez, c'est ça, il y a une chaleur, une rondeur du son, il n'y a aucune agression, il y a une légèreté dans la baguette, il y a une légèreté dans la peau, on domine la matière. En fait, il a un corps extraordinairement bien formé, quoi, faut bien le dire ce qu'il est, quoi. Il a compris très vite ce qu'il fallait travailler, quoi.
Mais cela dit, c'est
ça le problème.
Si vous jouez cette partie de cymbale, qui est tout simplement quatre coups par mesure à la main droite de façon métronomique, c'est complètement raté. Vous allez tout fiche en l'air.
Mais bien entendu. Alors Alain, maintenant nous allons aller encore ailleurs pour clore notre émission. Jack DeJohnette, nous sommes avec le trio Jarrett. Nous sommes à Cologne, dans la Philharmonie de Cologne, et nous sommes le 15 octobre 89. Et écoutez, il y a Solar, voilà un thème magnifique. Et ce qui est incroyable, c'est qu'à la fin de l'exposé du thème, même la fin, là, tout à coup, je vois, il y a une folie qui s'empare de DeJohnette. Je ne peux pas l'expliquer autrement. Une folie, quoi. C'est-à-dire qu'au lieu de « je joue cela, Charleston, passe cymbale, machin », pas du tout. Il fait quoi ? Je vous le donne en mille. Une marche tambour. C'est incroyable. Et fin de l'exposition du thème, et le début du chorus, c'est une marche tambour, avec les flanéras de trois, tout ça. Il se défonce, vous me pardonnerez l'expression, mais c'est la marche tambour. Et je vous propose d'entendre ce début, qui est absolument stupéfiant, qui montre à quel point Jack DeJohnette comprend toute l'histoire de la batterie, en fait. Toute l'histoire de l'instrument en tant que tel, en étant en même temps un formidable pianiste. Donc là, c'est une très grande leçon de musique. Et je vous propose pour clore donc cette marche tambour ahurissante au sein du trio Jarrett. Thank you.
Solar, le trio, Keith Jarrett, Gary Peacock, Jack DeJohnette. C'est très intéressant cette partie de batterie, n'est-ce parce pas, que ça n'est pas vraiment un accompagnement de batterie, c'est un arrangement de batterie.
Mais c'est trois musiciens qui chorussent en même temps, quoi. Mais ce qui est incroyable, c'est qu'en fait, il utilise tous les paramètres du tambour militaire, entre guillemets, distribués sur l'ensemble de la batterie. Donc, on reconnaît à peine le tambour, mais le tambour, il est là quelque part, quoi. Vous voyez, c'est ça qui est extraordinaire. Et en longévité, je crois qu'il dépasse maintenant le Modern Jazz Quartet, l'existence du trio de Keith Jarrett maintenant. Donc, ce sont des gens qui sont imprégnés les uns des autres quand ils jouent ensemble. Vous voyez, c'est une sorte de... plus que de la télépathie. Alors, nous étions donc le 15 octobre 89 à la Philharmonie de Cologne. Pour conclure notre émission, Alain, il y a un petit fascicule que j'ai retrouvé dans ma bibliothèque, un tout petit livre, qui a 57 pages, qui a été écrit entre 1917 et 1952. Vous vous rendez compte? Des petites phrases, c'était rien.
Ça fait pas beaucoup de pages par an. Hein.
Vous y mettez. Eh bien, écoutez, c'est les fameux cahiers de Georges Braque, Le jour et la nuit. Et qu'est-ce qu'on y lit? On y lit ceci. J'aime la règle qui corrige l'émotion. J'aime l'émotion qui corrige la règle. Voilà une magnifique, une réflexion à propos de notre tambour. Imprégnation, obsession, hallucination. Bien vu, c'est l'agencement de ces trois mots. Une autre phrase. Il faut toujours avoir deux idées, l'une pour détruire l'autre. Voilà encore le propre du jazz. Une dernière, il faut se contenter de découvrir, mais se garder d'expliquer. Nous avons beaucoup expliqué, mais nous avons essayé de suggérer à nos auditeurs des choses. Et puis, un peu plus loin, et surtout, Alain, à la même page, à la page 35, je lis. Partir du plus bas pour avoir des chances de s'élever. Une autre phrase, au jour le jour, chemin faisant. Voilà quel propre de l'artiste. Mais ô stupéfaction, Alain. La phrase suivante, le tambour, instrument de la méditation. Extraordinaire. Et en dessous, qui écoute le tambour entend le silence.
C'était Georges Pakzinski, ses cymbales et ses tambours. On les retrouvera dans quelques semaines pour un nouvel épisode du feuilleton qu'il consacre cette saison à l'histoire de la batterie, ou plus exactement à l'histoire des composants de la batterie. C'est Françoise Cordet, bien sûr, qui a mis en scène cette émission, dont Jean-François Néolier et Jean-Benoît Tétu ont assumé la prise de son. Toute cette équipe se joint à moi pour vous souhaiter de bien finir la nuit, de bien commencer la semaine par la même occasion. À lundi prochain.